Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en stock, la balado-diffusion qui vient offrir les grandes analyses et les grandes tergiversations sur la culture populaire. Aujourd'hui, nous vous présentons la seconde partie de l'entrevue conduite par Antonio Dominguez et Eva avec Marc Angenot. Suite au grand succès de la première partie, on s'est dit qu'on ne vous fera pas attendre plus longtemps et nous vous présentons cette seconde partie tant attendue et très appréciée de cette rencontre très fortuite et très intéressante entre ces grands esprits autour des sujets les plus pop. Passez une excellente semaine, bonne écoute et à la semaine prochaine.
Pour reprendre, pour enchaîner avec ce qu'on avait fait la dernière fois, on en était arrêté finalement. C'était très intéressant. Enfin, on a vu comment des études de la question du paralittéraire, comment peu à peu vous en étiez venu à la vision quasi holistique du discours social dans son ensemble. Et on avait évoqué quelques grandes ramifications qui avaient irradié de ce projet initial, dont la question du stéréotype antisémite et de la représentation de la sexualité. Et puis ça, finalement, ça vous mène au cœur d'un autre débat qui était donc le débat de la question des idéologies, mais pris sous un angle très différent à ce qu'on avait fait jusque-là. Puisque, contrairement à une tradition qui était, au fond, peu textualiste, je pense que dans les études sur l'idéologie, c'était beaucoup des questions de représentation, en fait, des grands corpus théoriques, alors que vous l'amenez complètement dans le discours.
C'est vrai, j'ai travaillé en partant de cette formation de littéraire, de linguiste, d'analyste du discours. Et cependant, je me suis donné des sortes de projets ambitieux qui étaient de continuer à prendre à bras-le-corps la totalité de ce qu'on a appelé les grands récits, c'est-à-dire ce qui, au XIXe siècle, quelque part entre le religieux et le politique vient essayer de rendre raison du sens de l'histoire. L'histoire est une sorte de divinité immanente, c'est-à-dire le XIXe siècle se fabrique des systèmes qui répondent à la fameuse question de Gauguin, d'où venons-nous, où allons-nous ? Et de ce point de vue-là, j'ai commencé à travailler, au fond, ça peut se résumer, sans être très, très compliqué, c'est les ismes, le socialisme, féminisme, fascisme, etc., c'est-à-dire les grands dispositifs par lesquels les humains essayent de transcender leurs limitations, leurs dérédictions, en donnant un sens à leur vie et en considérant que quelque chose continuera après eux. C'est une manière de dépasser l'idée religieuse. L'histoire avait un sens et le 19e siècle l'a rêvé, le 20e siècle est passé à l'acte. Après 1917, c'est-à-dire avec le bolchevisme et la contre-révolution fasciste, etc., des grands dispositifs se mettent en place par lesquels, si les individus n'ont pas une destinée, du moins ils peuvent se mettre au service de quelque chose qui les transcende et qui est l'évolution de l'humanité vers un arrêt sur image.
Oui, puis ce qui est très intéressant de l'art image au texte, au discours, c'est que du coup, c'est un portrait très différent de ce qu'on avait fait jusqu'à là, de l'histoire des idéologies, puisque tout à coup, on commence à voir toutes ces hétérogénéités entre les différents socialismes au pluriel, les différents anarchismes, oui. les débats qui se créent entre eux, et puis du coup aussi le fait que tu vas dans un domaine qui est spécifique et qui, je pense, n'avait pas vraiment été observé avant toi, qui était la parole pamphlétaire, le fait que ça passe dans le discours par un dispositif assez précis.
Alors écoute, puisqu'on essaye d'aller à ce que je considère moi comme être à la fois élémentaire et essentiel, la première chose, c'est que les idéologies ne sont pas des entités conceptuelles, ce sont des espaces généralement de polémique, et souvent, si on les regarde de près, il y a une polarisation. Le socialisme que j'ai étudié dans le livre Topographie du socialisme est composé de blanquistes qui détestent les marxistes, qui détestent les anarchistes et les libertaires, qui détestent les syndicalistes révolutionnaires, etc. Bien sûr que je simplifie, et c'est ce que nous faisons dans cette émission, parce qu'on essaye justement de suggérer et pas vraiment d'analyser. De la même manière, toutes les grands dispositifs idéologiques sont en fait des espaces de polémiques interminables, et ces polémiques sont d'autant plus interminables qu'elles débouchent sur un projet utopique, c'est-à-dire qu'elles se mettent à débattre sur l'inconnaissable de l'avenir. Alors, c'est vrai, j'ai d'une part publié un petit livre qui s'appelait « Topographie du socialisme » et qui essaye de penser à la fin du XIXe siècle l'ensemble de ces groupes qui vont s'unifier en France en 1905 dans le parti SFIO, mais qui sont composés de gens qui ne sont d'accord sur rien. D'autre part, j'ai fait un bouquin au PUF qui s'appelait « L'utopie collectiviste » et qui essayait de poser la question. Encore une fois, les questions les plus simples sont celles auxquelles personne ne répond. Qu'est-ce que ça aurait dû être le socialisme avant que n'apparaisse à l'Est le pays où naît l'avenir, comme on disait, de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui allait sortir nécessairement de la révolution. Et les gens que j'ai été étudiés, c'est justement pas des littéraires, c'est au contraire des hommes, de rares femmes politiques, c'est des polémistes, des journalistes de parti, des doctrinaires de parti. Tous ces gens-là se représentent la société qui va sortir de la révolution. Or, effectivement, avant même que quelque chose ne passe à l'acte, il se trouve devant des solutions qui sont toutes évidentes sur papier, mais qui sont toutes contradictoires. Par exemple, que sera le salaire? Il n'y aura plus d'argent, il y aura des bons du travail, mais que sera le salaire dans l'avenir? J'esquisse ça parce que ça peut s'esquisser en deux minutes. Une des explications, ce serait que le salaire sera mesuré à l'heure de travail, c'est-à-dire une heure d'un balayeur vaut une heure d'une cantatrice qui vaut l'heure d'un médecin. Bon, c'était très bien, donc comme disaient des gens qui ne sont pas des adolescents, ce sont des gens bedonnants à 50 ans, etc., pourquoi Sarah Bernard devrait être mieux payée qu'une figurante? Si la nature lui a donné un talent, c'est très bien, elle est déjà contente avec les applaudissements du public. Donc, salaire égal. Bon, c'est une explication. Il y a quand même quelques politiques qui avaient un vague sens pratique et qui se disent que ça va pas, ça marchera pas. Donc, ils se mettent à inventer des systèmes compliqués, salaire simple, salaire qualifié, etc. Bon, mais on sent très vite qu'on entre dans une logique de l'inégalité du travail, ou alors, qui est aussi une grande idée du XIXe siècle, des services publics. Ben, ça reste vrai, on ne paye pas pour aller à l'école, mais bien sûr, ça sera au-delà de ça. Le gaz, l'électricité, les transports publics seront gratuits, etc. Donc, et l'université, tout ce qu'on veut. Mais bon, mais qu'est-ce qui va aller à l'université? Vous voyez, on a à chaque fois des problèmes. Il y aura un comité. Il y aura un comité qui choisirait les plus aptes. Parce que bon, alors, ça pose déjà un petit problème. Non seulement, il y aura, bon, par exemple, les écrivains. Les écrivains, il n'y a plus de... Il faut qu'ils vivent de quelque chose et ils ont le droit de publier des œuvres. et d'écrire des romans, si possible pas antisocialistes et réactionnaires, auquel cas on ne les imprimera pas, mais enfin comment est-ce qu'on va décider de les imprimer puisqu'il n'y a plus de marché, il n'y a plus de demande, hein. Et bon, alors on va décider qu'un comité spécial d'autres écrivains va lire leurs romans, éliminer les obscénités et les choses qui ne sont pas... Et on publiera le roman un certain nombre d'exemplaires. Toutes ces solutions ont été tentées à certains moments, par exemple en Union soviétique, et on voit très bien qu'aucune ne marche très très bien. Donc j'ai essayé de montrer, sans ironie, le pensable, c'est-à-dire la diversité des solutions pratiques conçues. Par exemple... le travail rémunéré ne pourra plus exister. C'est-à-dire, je ne peux pas vendre mes services à quelqu'un. Du reste, la prostitution, au passage, aura disparu, puisque on sait que les femmes ne se vantent que parce qu'elles ne sont pas égales aux hommes, et donc dans l'avenir, elles auront l'égalité. Donc deux choses auront disparu, l'alcoolisme, la religion et la prostitution. Ça va très bien. Repassons aux idées fondamentales. Est-ce que une dame, ma voisine, là, et qui a une aiguille à coudre, on sait que les hommes ne sont pas très bons, est-ce qu'elle va réparer mon pantalon? Si elle réparait mon pantalon et que je la paye, c'est aller à l'encontre du socialisme. Donc il faudra une police politique qui vérifie que les dames ne réparent pas le pantalon du voisin. Et nous voyons très rapidement émerger quelque chose qui est en effet purement sur papier, mais qui est l'émergence d'une société extrêmement répressive. Et bon, par exemple, je ne suis pas heureux à Montréal, je vais aller à Toronto. Est-ce que je peux quitter mon travail en disant bye bye, je pars? Pas du tout, parce qu'il y a un plan quinquennal. Et donc, il n'est pas du tout question que je quitte mon travail, je reste à l'endroit qui m'est assigné. Et donc, on voit très très bien qu'au sur, dès le début, sur le plan pratique, les solutions recherchées aboutissent à ce qu'on appelle des apories. C'est une impossibilité à la fois pratique et même logique. Bon, voilà. Donc, j'avais fait ce bouquin, L'utopie collectiviste. J'en avais fait un autre auparavant, qui s'appelle La parole pamphlétaire. Et lui aussi tenait à mon sentiment, au fait qu'il y avait très peu de choses sur ce vaste domaine, l'essai, le pamphlet, la polémique, la satire, ce qu'on appelait parfois la littérature d'idées.
Qui était en fait extrêmement populaire, parce qu'une des choses qui est assez curieuse, c'est que le pamphlet était un des liens qui articulait précisément ces débats d'idées, etc., avec une certaine... culture populaire, dans le sens qu'ils étaient grandement diffusés.
Oui, c'est que je partais, évidemment, le pamphlet, il est littéraire, si vous décidez que c'est souvent des littérateurs qui y ont brillé, il est politique parce que les enjeux dont il parle sont politiques. Le pamphlet, justement, c'est un de ces trucs hybrides qui est à la frontière de bien des choses. Le pamphlet, c'est pas un essai, hein. Les essayistes, c'est des gens qui racontent comment ils observent la société, etc. Mais le pamphlet est quelqu'un qui se trouve en quelque sorte seul face à une société qui lui paraît imbuvable. Et donc, le livre qu'il va écrire est une bouteille à la mer dans laquelle il dit « Lisez-moi, enfin, regardez le monde que je vous décris ». C'est le cas de Philippe Muret, et c'est le cas d'Henri Rochefort, et c'est le cas d'Arthur Buis au Québec, etc. C'est des gens qui se trouvent mal dans la société où ils vivent et qui vont décrire une sorte de dénonciation globale, de refus global. De cette société. Bon, voilà, ça c'était un genre qui est très répandu, qui remonte lui aussi au début du 19e siècle à Paul-Louis Courier, etc., et sur lequel il n'y avait rien. Dans ma jeunesse, il y avait des polémistes bien connus, Jean-François Revel, tout ça. Ça ne s'étudiait pas à l'université, ni dans les départements littéraires, parce que ce n'était pas de la littérature, ni dans des départements de sciences politiques, ce n'était pas de Sciences Po sérieux. On voyait très bien que chaque fois que j'étais me promener quelque part, j'ai rencontré des zones grises dans lesquelles il y avait cependant quelque chose qui me paraissait avoir une portée historique.
Oui, tout à fait, parce que c'est un peu à la fois l'âge d'or du pamphlet, et c'est à travers ça que se créent des vraies mythologies politiques populaires qui, au fond, on se rend compte, sont plus importantes que les débats d'idées stricto sensu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui marche plus, ce sont des représentations. Vous avez par exemple étudié le bourgeois comme ennemi du peuple. Donc cette idée, le prêtre comme le monstre en soutane. Donc c'est ça finalement qui cristallise dans l'imaginaire
populaire. C'est ça, populaire. L'imaginaire social, c'est vrai, il se fabrique. Le bourgeois qui a un coffre-fort avec une clé comme ventre proéminent qui a, et dont sortent des signes de pièce, etc., tandis que les pauvres grouillent à ses pieds. C'est une représentation à la fois visuelle et extrêmement efficace. Bien entendu, dans l'autre camp, le juif va remplir le rôle. C'était évidemment ça qui m'intéressait, mais c'est tout surtout à un certain moment. Il faut aller dans plusieurs sens. Un des sens possibles, c'est de se dire, qu'est-ce qui arrive si je fais un travelling arrière, c'est-à-dire si on prend un très grand recul. Un très grand recul sur plusieurs siècles, c'est-à-dire si j'efface l'histoire du 19e, du 20e siècle, ces différentes étapes, est-ce qu'il y a là quelque chose comme des permanences? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des manières de penser qui sont sui generis à la pensée du progrès et qui ont un côté très singulier? Là aussi, il y a pas mal de chercheurs que je connaissais pas, mais que j'ai fini par lire comme tout le monde, et qui s'étaient posé la question avant moi. J'ai essayé dans mon livre « Gnose et millénarisme » d'expliquer l'origine religieuse des grandes pensées du 19e et du 20e siècle, à la fois comme gnose, c'est-à-dire comme... la gnose, là aussi, en 30 secondes, on arrive à dire quelque chose. La gnose consiste à dire ce monde abominable où les innocents souffrent et où les milliardaires meurent contents dans leur lit ne peut pas être celui qui a été créé par le vrai Dieu. Il y a un vrai Dieu, mais à l'occasion, Jésus peut jouer le rôle. Il y a un Dieu caché, un Dieu qui va venir sauver l'humanité, et il va le sauver d'un mauvais démiurge qui a créé un monde tout à fait de travers. C'est une pensée. Millénarisme, ça revient, c'est en effet une version chrétienne de ça, c'est-à-dire à la fin des temps, Jésus va revenir régner pour 1000 ans sur les justes, pendant que Satan sera enchaîné, c'est ce que dit l'Apocalypse. Je crois que toute la modernité a fonctionné sur une logique de gnose et de millénarisme, et qu'à partir de là, on peut projeter des variantes qui sont Saint-Simon, Fourier, Karl Marx, Lénine, etc. Bien sûr, tous ces gens sont dans la dénégation de l'origine métaphysique et religieuse de ce qu'ils racontent, mais pour moi, c'était ça, c'est la clé, et était d'ordre religieux. Après, en effet, on va en dire quelques mots plus tard, j'ai essayé de passer à certaines époques de cette grande dynamique que j'ai appelée les grands récits, et qui consiste à la fois à expliquer le passé et le présent par l'avenir.
Là, c'était précisément la vision, un peu la déconstruction du marxisme, finalement, dans le livre sur le marxisme et les grands récits, puisque, par ailleurs, c'est en partant d'autres versions hétérodoxes qui ne sont pas celles de Marx. Et du coup, on arrive à voir cet aspect téléologique.
Oui, tu as raison. J'ai, en effet, dans le marxisme les grands récits, j'ai essayé de montrer que le marxisme est d'une forme typée, mais qui est encore une forme dénégatrice d'un millénarisme, ce qui n'est ni bien ni mal, c'est une simple constatation historique, c'est-à-dire justement cette idée renforcée en version stalinienne, il y a des lois de l'histoire, ces lois sont fatales, l'évolution historique est fatale, le socialisme est l'aboutissement fatal de l'humanité, etc. Donc ces trucs qui ont permis à des militants de vivre et de mourir, c'est évident, mais qui étaient entièrement fondés sur l'idée d'un déterminisme historique. Et s'il y a quelque chose qui s'est effondré avec la chute du mur de Berlin, c'est en effet ce déterminisme historique, cette idée que ça va quelque part. Il reste peut-être des bouts de tout ça qui ont vaguement tendance à revenir à la surface, mais enfin on ne peut pas dire que ni le féminisme ni le nationalisme sont vraiment des incarnations dynamiques d'une représentation de la fin de l'histoire.
Oui, puis toute cette idée que le capitalisme ne pourra pas survivre à ses propres contradictions et que,
oui,
donc
alors
c'est
c'était
inévitable.
Ça justement, parce que la grande, non pas ce que dit Marx, qui dit des tas de choses et qui est un très grand penseur, mais ce qui a été compris, c'était que Marx expliquait que ce n'était pas la volonté des exploités qui allait mettre fin au capitalisme, c'était que le capitalisme devait s'effondrer sous les contradictions mêmes du fait de, notamment pour le prendre l'exemple le plus simple, de la mondialisation. Comment peut-on admettre que M. Bill Gates soit propriétaire d'un machin sur les 5 continents, etc. Il est évident qu'il suffirait de lui envoyer un gendarme le matin en disant « Écoutez, vous n'avez plus rien, merci, on nationalise votre compagnie, etc. On vous prend comme ouvrier dans nos locaux. » Enfin, peu importe, il était évident qu'il y avait une contradiction juridique entre la propriété privée et la mondialisation de la production. Donc le capitalisme allait s'effondrer et le prolétariat n'aurait qu'à donner un coup d'épaule à un système pourri d'avance. Et du reste, c'était surtout ça l'idée. C'est pas parce que le socialisme serait bien moralement, c'est parce que il serait sur le plan du productivisme et du planisme beaucoup plus efficace que le mode de production capitaliste. Et là aussi, on va essayer de retravailler une seconde, mais je sais que je suis caricatural en parlant d'une seconde. Bon, il y a combien de petits coiffeurs à Montréal qui attendent cet après-midi quelqu'un éventuel qui veut venir se faire couper les cheveux? Bon, ils sont en concurrence entre eux, ils sont d'un productivisme extrêmement faible, tandis que dans le socialisme, il y aura un bureau central de coiffure à côté de l'UQAM, dans lequel, avec la plus grande hygiène possible, des fonctionnaires de coiffeurs, très polis, etc., vont venir couper les cheveux avec un truc bien planifié qui fait qu'on ne fera pas la file, hein, jamais. Même pas à l'urgence. Voilà. Donc, le raisonnement productiviste et planiste était un raisonnement économique, c'était pas un raisonnement moral. C'est, dans une société moderne, la propriété d'État des moyens de production et d'échange est la seule qui était logique.
Bon. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que précisément dans cette substitution aux religieux par des sortes de religions séculières politiques, c'est ce qui les a rendus, ces grands récits militants, c'est ce qui a pu les rendre populaires, puisque c'est ce qui se prêtait à ce que ces idées que la marche de l'histoire, ces idées du grand soir, ces idées, l'héroïsation, le côté du martyr prolétaire, prolétarien, tout ça. Donc on voit bien qu'au fond, à travers la dynamique des pamphlets, etc., ce qui s'esquisse, c'est la façon dont est vécue la politique dans la culture. Au fond populaire, dans la culture de pas nécessairement ceux qui participent au débat d'idées, mais qui, ce qu'ils en reçoivent, c'est des grandes représentations, à partir desquelles ils peuvent précisément organiser leurs espoirs, leurs croyances.
Oui, c'est vrai, il s'agissait de trouver un système mobilisateur, et donc ils ont très logiquement accentué le caractère déterministe de ce qui se présente chez Marx comme tel, mais ils l'ont accentué de manière à dire au fond aux militants, la victoire est inévitable, même si vous mourrez, vous verrez le lendemain qui chante et le soleil de l'avenir qui se lève à l'horizon. Autrement dit, il fallait quelque chose qui permette justement de transcender la dérédiction d'une vie exploitée et misérable en montrant qu'il y en avait un avenir. Donc je n'ai certainement pas écrit mes livres ni pour ironiser là-dessus, ni du reste pour approuver, parce que l'histoire du XXe siècle ne permet pas beaucoup d'enthousiasme, mais j'ai essayé de montrer quelque chose qui s'effondre à l'époque de la chute du mur de Berlin, qui était justement la contradiction par excellence, parce que créer un mur pour empêcher les Allemands de l'Est de filer dans le régime abominable qui se trouvait de l'autre côté de la ville, ça prouvait bien un échec fondamental. Mais comme vous le savez, le mur de Berlin s'appelait Antifaschistische Schutzwall, c'est-à-dire c'était un mur pour empêcher les fascistes d'entrer en Allemagne de l'Est, ce qui n'a jamais convaincu absolument personne. Voilà.
Et ça t'a amené aussi à étudier donc, précisément des choses qui étaient très absentes de tout ce regard sur le 19e siècle. Par exemple, la poésie socialiste.
Oui, là, oui. Alors ça, c'est le problème du 19e siècle. Il faut mettre toujours toute l'histoire des idées, c'est un puzzle. Il faut mettre des pièces qui collent plus ou moins ensemble. Tout homme cultivé et femme. On va prendre les hommes, vous allez voir. Tout homme cultivé au XIXe siècle sait faire des vers. Il fait des vers, il en fait au lycée, il en fait plus tard dans sa vie. On avait parlé du savon du Congo, qui est de la poésie en vers. Le socialisme s'est largement exprimé en vers, en partie en chansons, comme l'Internationale de Potier, dont les paroles sont de 1871, mais très largement, il y a des poèmes d'estance à l'exploiter, des poèmes à la gloire des martyrs de la Révolution, des poèmes contre le bourgeois exploiteur. Enfin, il y a une immense production de poésie. Or, bien entendu, ce qui arrive dans les sociétés, c'est un autre point à aborder, c'est que nos sociétés sont toutes amnésiques, c'est-à-dire elles oublient. Elles ne peuvent fonctionner qu'à l'oubli. Simplement, et peut-être en effet on est une société présentiste aujourd'hui, les humains vivent dans le présent, je suppose que c'est le cas de vos étudiants, c'est-à-dire le passé ne les intéresse pas beaucoup et l'idée de l'avenir est celui d'un hiver nucléaire si on ne fait pas attention avec l'écologie, autrement dit il n'y a plus vraiment d'avenir, mais le 19e siècle vit dans l'avenir, ça lui permet de transcender les malheurs des temps. Et donc j'ai pensé à un moment donné, j'ai commencé un peu à étudier une histoire de l'oubli. Les sociétés non pas fonctionnent toutes à l'oubli, mais elles fonctionnent très différemment à l'oubli. Il suffit de se promener dans les cimetières, enfin le cimetière du Mont-Royal, là, on peut voir des tas de gens, Onésime Tremblay, etc., 1870-1924, bon, on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'il reste comme trace? Comment le passé laisse-t-il des traces? Une des versions possibles, c'est en effet que, il faut se rappeler, les grands savants, les grands penseurs, les grands sages, les grands généraux, etc., donc le passé serait une sélection, et on saurait, aujourd'hui, on a oublié tous les gens du Bas-Canada en 1830, mais on se rappelle Papineau. Très bien, donc il y aurait une des versions possibles. Le socialisme était justement une machine qui fonctionnait sur une idée qui est religieuse, qui est que Dieu a une mémoire parfaite. Enfin, Dieu, il se rappelle de tout le monde, et donc on ferait des monuments dans le socialisme, dans lequel on écrirait à jamais les noms des grands militants qui se sont sacrifiés pour la Révolution. C'est une des manières de gérer le passé. Une autre qui nous paraît tellement bizarre, encore une fois avec le recul, c'est de voir que Ho Chi Minh, Mao Tse-tung, Lénine sont momifiés. Sont des momies révolutionnaires là que les enfants des écoles vont visiter, et Agostinho Neto à Luanda en Angola, donc il y a une série de, il y a quelques momies
là pour le coup. C'est fascinant par rapport au culte des reliques, puisque c'est le traitement qu'on accordait au corps des saints qui était par définition imputrescible, je pense qu'on dit en français.
C'est ça. Alors ça c'est un gros problème qui est évidemment, quand on a momifié sur la pression du secrétaire général Staline, on a momifié Lénine. D'abord, sa femme Krupskaya a protesté parce qu'elle était une vraie matérialiste, pas question. Mais Staline avait une bonne intuition de ce que pouvaient être les mentalités des paysans russes. Donc, on a décidé de momifier Lénine, mais on ne pouvait sûrement pas faire une référence aux momies orthodoxes, enfin aux reliques orthodoxes. Alors, heureusement, en 1924, les Anglais venaient de découvrir Toutankhamon. Et donc, ils ont rapproché la momification de Lénine du pharaon Toutankhamon, ce qui était plus laïque à leur manière. Et donc, voilà, il y a encore des tas de gens. Le dernier qu'on a essayé de momifier, c'est Chavez. À Caracas. Malheureusement, Chavez était, ils ne sont pas arrivés parce qu'ils avaient trop attendu. Et Maduro a dû dire qu'il était déjà, il n'a pas dit pourri, mais c'était ça fondamentalement.
On sort précisément dans la collection Borderline un livre sur l'embaumement. C'est un des prochains qui s'en vient.
Voilà, justement, et le contraire de l'embaumement, à la Révolution française, ils sont partis à Saint-Denis sortir les corps en très mauvais état de Chilpéric et de Louis Ier, enfin des rois mérovingiens. Ils leur ont coupé la tête, des scènes affreuses qu'on a un peu réprimées. Et puis la Révolution française a eu cette... c'est très bien parce que les sociétés répriment les mauvais souvenirs. C'est un peu un mauvais souvenir. Toutes les statues de saints de Notre-Dame de Paris et de toutes les cathédrales ont été guillotinées au ciseau à froid d'une manière posthume, en quelque sorte. Bon. Donc
Et précisément, Philippe Muret, on en parlait tantôt, pour le 19e siècle, il trouve que l'événement fondateur de ce qu'il va appeler l'occulto-socialisme, ce transfert des morts. Il fait allusion à la construction d'un nouveau grand cimetière à Paris. Là, je n'ai plus la date en tête exactement. Mais il dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il y aurait donc cette fascination pour le mort et le macabre dans la mentalité du 19e, du romantisme, etc. Pas tellement le macabre qui venait de plus loin, du baroque et tout ça, mais un nouveau regard. Et au fond, tu évoquais l'oubli, puis... C'est tout à fait aussi le contexte où apparaît le spiritisme du type positiviste, puisque c'est l'idée que les morts viennent nous parler, puis que c'est ça notre système de relations.
Muret était superbe parce qu'il n'était justement pas universitaire ni historien, c'est-à-dire il voyait des choses que d'autres gens ne souhaitaient pas voir. Il y avait les spirites d'un côté, il y avait les idées politiques et le socialisme de l'autre. L'idée de les faire converger ne serait venue à personne, même le seul qui ait écrit sur ce que je viens de décrire, sur les guillotinages de statues de saints, est un psychanalyste, pas un historien, parce que pour un psychanalyste, ça veut dire quelque chose, mais les historiens n'aiment pas ces histoires. Le 19e siècle est épouvantablement macabre, il y a le fameux poème de Baudelaire sur le squelette de femme, etc. Enfin, donc, et le 19e siècle est pris entre deux impossibilités. L'une, c'est de revenir à la foi de leurs ancêtres, et l'autre, c'est d'accepter un monde sans transcendance, sans signification, et un monde purement matérialiste. Donc, le 19e siècle va essayer de toutes les manières, spiritisme, théosophie, religion de l'humanité, religion de la science, etc. Ils vont tous essayer de se fabriquer des religions de substitut, et puis c'est seulement très tard que... et justement, de ce point de vue-là, il est clair que, à mon avis, le marxisme dans ses grands moments a été la dernière tentative de trouver une religion de la transcendance dans un monde et il est arrivé quelque chose après, parce que qu'est-ce qui restait à faire, c'est ce qui caractérise la religion aujourd'hui. À mon avis, la religion est un centre d'achat. Il y a un grand centre d'achat chez Provigo. Vous pouvez acheter des massages tantriques, ça permet de faire des papouilles dans un couple. Vous pouvez acheter des petites idées bouddhistes de métempsychose, etc. Vous bricolez quelque chose. Depuis 40 siècles, la religion sert à faire des communautés. C'est dans notre société aujourd'hui, pour la première fois, qu'on voit du religieux qui permet de s'identifier. Et du reste, c'est vrai, si vous faites un cours pour l'université, vous allez voir si les étudiants sont en confiance. Ils ont des croyances, ils ne s'engueulent pas. Hein, autrefois, ils se seraient engueulés entre trotskistes et staliniens, ils se seraient tapés sur la gueule parce qu'ils cherchaient encore du collectif. Et donc, ils étaient comme Bin Laden. Enfin, s'ils n'étaient pas d'accord avec moi, vous avez tort. Mais aujourd'hui, chacun a des petits bouts de croyances. Même, il faut bien le dire honnêtement, hein, le végétarisme, le tofu, les légumes biologiques, enfin, on sent très bien tout le caractère fétichiste et religieux. Tout ce que je dis, c'est le grand changement, c'est... Ah, voilà un mot du notre siècle, on a privatisé le religieux. Et le dernier, qui n'était pas privé, c'était les grandes machines totalitaires. Bien sûr, ceux qui reconnaissaient leur dette au spiritisme et à la théosophie, c'était les nazis. Parce que comme eux, ils n'étaient pas rationalistes, ça leur permettait de le reconnaître. Il était beaucoup plus difficile de le reconnaître du côté de l'extrême gauche. Mais oui, nous avons eu affaire à d'éternels retours, d'essayer de se dire, Robespierre en l'an 2 fait la fête de l'être suprême, où il écrit une loi bizarre, là. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Ça devait faire plaisir à l'être suprême de savoir que le peuple français consentait à le reconnaître, mais c'est vraiment l'immortalité de l'âme. Il raisonne comme un politique. S'il n'y a pas d'immortalité de l'âme, s'il n'y a pas une sanction après la vie des bons et des méchants, tout le monde, tous les salopards, les réactionnaires, les aristocrates, etc., et les bons républicains partent dans le néant, à ce moment-là, il n'y a pas de vérité politique possible. Et donc, ça, c'était vrai. Et donc, tout le XIXe siècle, une bonne partie du XXe, essaye de trouver du collectif fondé sur une transcendance.
Et c'est un des sens profonds de la culture populaire, puisqu'à l'origine, ce qui était vraiment la culture commune, par exemple au Moyen-Âge, s'articulait beaucoup autour de la religion. Après, il y avait énormément de différences, etc. Oui, mais il y avait cette sorte d'écuménisme, de la chrétienté. Oui. Et finalement, on sent qu'il y a, par rapport à la sécularisation, à la désacralisation et la déchristianisation, il y a au fond des mécanismes de substitution pour ce qui est de recréer une culture populaire dans la fin de ce qui était au fond la culture populaire par excellence, qui était le religieux.
Le religieux l'était, et on voit très très bien, curieusement, c'est parce que nous sommes probablement du dehors des rationalistes, c'est parce que nous pensons qu'une religion devrait être une conviction pleine de conséquences, avec l'acceptation des dogmes et un minimum de mode de vie qui soit adapté à ça. Il suffit de lire Stendhal en Italie, on va au spectacle, on va danser, etc. Mais la religion est partout. Si un domestique veut se venger de son maître, il va apporter au prêtre un os de poulet mangé le vendredi. Le prêtre envoie l'évêque envoie l'official engueuler le type, etc. Donc la religion est partout, mais sous la forme de contraintes, pas de foi réelle.
Et puis il y a un mélange total avec le profane et le sacré. C'est ce que précisément les puristes de la le clergé n'a cessé de combattre, c'est la religion populaire. Et il y a cette phrase incroyable chez Stendhal, c'est cette dame qui dit d'une glace, c'est tellement délicieux, dommage que ce ne soit pas un péché.
Oui, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai, il y a tous ces siècles classiques inventent des choses baroques qui ne nous disent plus rien. Par exemple, il y a une religion des femmes, une religion des mystiques, qui est une religion orgastique évidente. Enfin bon, mais les grands écrits de Jean de la Croix ou de Thérèse d'Avila représentent une sexualisation, une érotisation du religieux, et ça marchait très bien. Mais quand on se demande si un bourgeois du XVIIIe siècle est chrétien, si vous le voyez dans sa vie de tous les jours, il fait des affaires, il magouille un peu, etc., il n'a pas l'air d'être très préoccupé. C'est vrai que quand il agonise, on va chercher le curé et on lui donne les saintes huiles, tout marche très bien. Ces gens n'ont pas besoin d'être chrétiens au sens d'avoir des convictions extrêmement intimes. Les seuls qui l'ont, les jansénistes et tout ça, passent pour des emmerdeurs.
Et puis eux, ils vivent dans l'idée que précisément la chrétienté dégénère complètement.
Ben oui, justement, parce qu'ils ont parfaitement raison. Mais sauf que ça n'a jamais été. Simplement, on est dans des sociétés où le religieux est omniprésent. Comme dans l'Espagne du temps de Franco, on rencontrait la Guardia Civile et des curés en soutane et des religieuses, et en permanence. Donc on était dans une société où les gens n'étaient pas plus religieux que ça, mais on devait y croire.
Oui. Et du coup aussi, à travers la matrice du pamphlet, il y a aussi quelque chose de tout à fait fascinant qui surgit, c'est un nouveau modèle de comprendre la rhétorique qui n'est plus celui de la persuasion ou de la, la recherche de convaincre. Bon, la persuasion, oui. Vraiment, oui. De la persuasion. Oui. Mais au contraire, ce que donc, vous appelez le dialogue de sourds. Oui. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose aussi de oui. très intéressant qui n'a fait qu'empirer avec oui. les réseaux sociaux.
Ça, c'est vrai. Alors, exactement. Parce que les réseaux sociaux ne sont même plus, on va revenir en arrière, ne sont même plus dans l'argumentation, ils sont dans l'intimidation. Et donc, ce qui fonctionnait encore autrefois, qui était qu'apparemment les gens discutaient, bien qu'ils se convainquaient très peu les uns les autres, mais là, on n'est plus dans... le nombre... on vit d'abord, en 2017 au Québec, dans la société la plus censurée, la plus répressive qu'a jamais connue l'Occident. D'autre part, j'étais revenu dans Dialogue de Sourds, j'ai fait un traité de rhétorique, je l'ai fait à l'encontre de ce que font la plupart des traités, qui sont un peu intemporels et un peu techniques aussi, et qui commencent en disant benoîtement la rhétorique est l'étude des moyens par lesquels les humains se persuadent. Bon, c'est vrai, sauf que les humains se persuadent très peu. Que ce soit une querelle de ménage ou que ce soit un débat politique, j'ai jamais eu personne qui se persuadait. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est-à-dire, effectivement, les humains passent leur temps à argumenter. Et quand je ne raconte pas une anecdote, une histoire, la seule autre chose que je peux faire avec des mots, c'est de produire des arguments. Je peux passer de l'un à l'autre. Donc j'ai essayé de faire un traité de rhétorique fondé sur l'idée de dialogue de sourds, c'est-à-dire sur l'idée de non-communication, justement parce que il y a une sorte d'euphorie de la pragmatique linguistique qui est que, va me chercher un café, tu vas me chercher un café, on s'est compris, la communication s'est produite. Quand c'est un débat politique, elle se produit évidemment très, 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 très mal, et j'ai essayé de montrer que c'était dû à quelque chose de fondamental, qui est les humains ne raisonnent pas de la même manière. Et dans la même société, ils ont des démarches de raisonnement. Justement, les socialistes dont parlait, qui raisonnent en invoquant l'avenir pour discuter le présent, sont des gens qui sont inintelligibles à des conservateurs, pour qui il y a le présent et le présent, puis rien d'autre. Bon, donc, je dirais, le grand problème qui est essentiel de la rhétorique, c'est comme ça que fonctionnent nos sociétés, c'est qu'elles créent en effet soit des communautés de gens qui sont convaincus d'avance, et d'autre part, qu'elles créent des cloisonnements et des systèmes de rejet. Alors j'ai fait un traité, Dialogue de sourds, et je pense que la plupart des chercheurs l'ont assez bien accueilli.
Oui, tout à fait, c'est finalement le tournant un peu copernicien de reprendre l'inverse oui. de ce qui se passe. Et là où c'est, pour les réseaux sociaux, c'est un des livres qui est paru sur la question de à quel point, sur les réseaux sociaux, ce qu'on cherche, c'est tout simplement à s'entourer de gens qui pensent comme nous et à créer des véritables bulles où tout simplement vous êtes dans une... C'est-à-dire, ça a fini par créer des sortes de nostalgie de communauté au sens de ces communautés de croyances dont on parlait. Oui. Sauf que, bon, à n'importe quel moment, on peut unfriender, on peut partir, on peut changer de communauté, etc. Donc, il y a un côté déjà qui est paradoxal. Mais qui, au fond, ce que ça produit, c'est que c'est toute l'information qui n'est filtrée que par l'identique à soi.
C'est évidemment passionnant, d'autant que c'est là aussi un problème de longue durée, mais qui subit des transformations qualitatives dans le monde où nous sommes soutenus, en fait, par ces transformations techniques, comme les réseaux sociaux. C'est toujours le mystère de savoir si c'est les mentalités qui suscitent le technique ou si c'est le technique qui modifie les mentalités. Dans les temps de ma jeunesse, un Français de gauche était un homme qui ne parlait qu'à des gens de gauche, avec des idées de gauche, et qui, par chance, ne rencontrait jamais un lecteur du Figaro qui aurait contredit sa sécurité. Donc il y avait déjà ce sentiment fondamental en longue durée de la connivence, qui est, il est toujours assez pénible de devoir m'affronter avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. Et il y a deux trucs qui fonctionnent dans les réseaux sociaux, la dénégation au sens de Freud, c'est-à-dire « je ne veux pas le savoir », et le « je ne veux pas le savoir » est un truc très, très reposant, et d'autre part, en effet, la la connivence, on s'entend à demi-mot, on s'entend sur les choses qu'on déteste, on n'a pas besoin de les argumenter puisque tout le monde est déjà convenu. Autrement dit, il y a très peu de vraies rhétoriques qui s'échangent. La rhétorique est une machine qui apparaît sous le nom rhétorique techné chez les Grecs il y a 25 siècles. C'est dans de très petites villes. Hein, Athènes, c'est comme Rouyn-Noranda, peut-être mieux, mais quand même, c'est pas extrêmement peuplé. C'est des petites villes dans lesquelles les gens qui sont des vrais citoyens, hommes athéniens libres, sont quelques milliers. Ils s'engueulent sur l'agora, mais ils vivent dans une société relativement homogène et dans laquelle on peut se demander si on doit creuser un nouvel estuaire au Pirée pour les bateaux. Enfin, ce sont des questions techniques. En dehors d'Athènes, il y a les gens qu'ils appellent barbaroi, qui parlent barbar, c'est-à-dire qu'on ne comprend même pas ce qu'ils disent, donc ce n'est pas la peine. Donc on avait un système dans lequel la rhétorique comportait deux lieux par excellence, l'agora, où on débattait avec des citoyens, et bien entendu le prétoire, dans lequel, quand on avait un conflit entre deux citoyens, il y avait un avocat. Et donc la rhétorique, pour nous, est très marquée par son origine juridique. C'est-à-dire, après tout, il n'y a pas de situation plus bizarre que celle d'un prétoire si j'étais un martien. Parce qu'il y a là deux individus qui se plaignent, ils sont des avocats, ils argumentent, l'un en faveur, l'autre contre le plaignant ou l'intimé, etc. Et puis il y a quelqu'un que j'appelle un juge et qui est payé pour décider par-dessus les intérêts des gens. Et curieusement, c'est son boulot. Il fait ça très bien. Le juge ne répond pas aux journalistes, il ne répond pas aux avocats, il ne répond pas aux plaignants. Il dit le droit par-dessus la tête de tout le monde. Or, c'est une situation qui n'existe pas dans la vie. Elle est uniquement dans ce monde juridique. Et donc, largement, la rhétorique a été fondée sur cette idée qui est claire. Un juge qui dirait à la fin des plaidoyers, écoutez, vous ne m'avez pas convaincu ni l'un ni l'autre, je rentre chez moi, je vous laisse vous démerder, perdrait rapidement son boulot. Donc, il est évident que la situation juridique implique qu'il y a eu persuasion, il y a eu balance des intérêts et des inconvénients, le juge a décidé. Mais dans la vie courante, ce n'est pas comme ça, et sûrement pas dans les réseaux sociaux.
Et c'est d'ailleurs fascinant à quel point la judiciarisation va de pair avec la nouvelle culture de l'extimité et des réseaux sociaux, et parce qu'in fine, c'est tout le temps, on s'en réfère dans tous ces débats, etc. Finalement, on s'en réfère à cette envie du pénal dont parlait oui. Muret. Finalement, c'est l'envie que les conflits soient tous privatisés, qu'ils soient tous judiciaires.
Voilà, c'est ça. D'abord, les conflits sont privatisés, alors qu'autrefois, ils invoquaient une transcendance et une collectivité. Et d'autre part, l'envie de pénal chez Muret, ça veut dire deux choses. Effectivement, tout le monde veut se retrouver devant les tribunaux. Les femmes qui ont été abusées par Weinstein mieux vaut tard que jamais, etc. On va avoir en effet une pénalisation. Mais cette envie de pénal n'est pas du tout l'envie d'un juge par-dessus, qui se trouverait par-dessus la mêlée et qui jugerait d'une manière totalement sereine et transcendante, parce que si par hasard sa sérénité n'est pas celle de tout le monde, il risque de recevoir des tomates. Donc on a affaire où il y a une société qui tient l'histoire de la société américaine. La vieille Europe n'est pas encore totalement dans le pénal. Monsieur Trump a une vingtaine d'avocats payés $500 de l'heure. Mueller et les autres, c'est une société d'avocats, ce qui est tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas une société dans laquelle il y ait vraiment des débats dans la sphère publique. On fait semblant, on nous parle à RDI, à la télé, etc., de débats et de discussions, on pourrait analyser, il n'y a jamais de vraie discussion. Et quand on prend quelqu'un, CNN a essayé pendant la campagne électorale, au milieu de tous les autres, ils avaient un Trumpiste de service Il y avait une Madame McAnamy, était un bon exemple, qui se faisait engueuler par tout le monde. Elle a fini par faire une dépression, donc où elle a été récupérée par les gens de la Maison Blanche, lui disant c'est pas la peine d'insister. Donc on est dans une société où il n'y a pas de vraie discussion, et il y a surtout en effet des mécanismes de censure comme on en a rarement connu. Les mécanismes se comprennent très bien. Ils tiennent à l'existence de lobbies organisés. Et un lobby est quelque chose qui doit aller au-delà des gens qu'il représente, c'est-à-dire de ne céder en rien et de se trouver un ennemi à abattre. C'est essentiel. Donc tous ces lobbies fonctionnent dans l'excès, même si les individus alpha ou lambda ne sont pas d'accord, c'est pas eux qui ont la parole. Ceux qui ont la parole, c'est les propriétaires d'une idée. Et donc, là aussi, on voit un phénomène qui peut durer, c'est tout.
Et il y a un dérapage technologique de cela aussi, puisque la réduplication des messages, qui est le principe de la viralité sur le monde numérique, on sait maintenant à quel point ça peut être manipulé par tous les bots, oui. etc. Et donc, en fait, on voit bien comment quelque chose devient un trending topic, soit parce qu'il y a de l'ingérence, on voit maintenant beaucoup autour de la Russie, mais je suis sûr que la CIA et le NSA font exactement la même chose. C'est juste qu'on voit bien comment il est facile, finalement, de créer des états d'opinion constamment. Et comme ça va aller dans cette sorte de chambre d'écho que sont les réseaux sociaux, une fois que le trend est lancé dans une communauté, etc. Et puis parallèlement, on a eu la chance donc, de publier sur Pop en Stock le texte de votre conférence sur Internet et à quel point la théorie du complot prolifère sur Internet, qui serait un peu peut-être le complément de cette idée-là. C'est que parallèlement à cette idée d'être très convaincu déjà d'avance, etc., et d'être dans un dialogue de sourds permanents, qui n'est peut-être même plus un dialogue, mais comment parallèlement, il n'y a plus du tout sur Internet, il n'y a plus tellement la possibilité de discriminer le vrai du faux, et que c'est ce qui est en train de donner vie à quelque chose que vous aviez déjà étudié de par le passé, les théories du complot. Comment c'est le grand retour de cette...
C'est évident que le XXe siècle n'a pas eu les moyens techniques de ses ambitions. Après tout, Hitler n'a que la radio et des agents de la Gestapo qui écoute dans les bistrots ce que les gens disent, donc il n'a pas vraiment, et même les soviétiques n'ont pas vraiment les moyens. Aujourd'hui, ces moyens techniques existent. Il n'y a pas, en effet, comme au contraire des théories du complot, il n'y a pas un marionnettiste caché qui manipule tout ça. En quelque sorte, ça marche tout seul. L'avantage des théories du complot, c'est qu'elle procure à peu de frais des explications totales et en plus qu'elle donne l'impression d'être perspicace. Hein? J'explique que les attentats du 11 septembre ont été fomentés par la CIA, dont Bin Laden était un agent dormant, je reconnais que ce n'est pas très fort, mais il y a des gens qui, si j'ai envie d'être convaincu de ça, je me dis « bon Dieu, mais c'est bien sûr ». Tout s'explique, etc. Donc les théories du complot sont l'aboutissement de quelque chose de très simple qui est d'avoir une explication avec une faible exigence de frais. D'autant que dans une théorie du complot, ceux qui nient le complot prouvent qu'ils sont membres du complot. Et donc il y a un système qu'on appelle self-fulfilling. Il marche par lui-même. Bon voilà. Donc je dirais que nous sommes dans un état de société qui durera ce qu'il durera, mais dont ni vous, ni moi, sûrement pas moi, mais même pas vous, ne verrons la fin. Parce qu'il s'agit d'une dynamique, qui s'auto-renforce, la privatisation des croyances qui implique cette forme de tolérance molle. Hein. Une étudiante qui est végétarienne ne va pas engueuler l'autre en principe, à moins qu'elle soit portée vers le fanatisme le plus total parce qu'elle mange du steak. Enfin, on est dans une tolérance de petits délires privatisés. Bon. Autrefois, c'est vrai, si j'arrivais dans un village du Québec, de Gaspésie, et que j'étais protestant, ou Dieu sait quoi, polonais et orthodoxe, je sais, enfin peu importe, si j'étais pas du coin, j'étais extrêmement suspect, mais c'était rare, on ne rencontrait pas de tels gens. Aujourd'hui, on est dans un monde à la fois privatisée quant aux croyances, et d'autre part, incapable de déchiffrer un réel qui, en effet, est de plus en plus opaque, et de plus en plus obscur. Et donc, c'est très agréable, une théorie du complot déchire le voile. Elle déchire le voile, elle montre que ce n'était pas si obscur que ça. Et et les théories du complot ont une longue histoire. Elles sont toujours assez bien marchées, mais simplement, elles n'étaient pas totalement répandues dans la société. Mais enfin, je considère que... je sais pas, enfin, je vais essayer d'inventer quelque chose de délirant, mais d'attester que la Shoah n'a jamais eu lieu, c'est le résultat d'un complot entre Staline, Roosevelt, Churchill et De Gaulle. Bon, vous me direz, c'est en effet ce qu'on appelle invraisemblable, indépendamment du caractère odieux. C'est odieux, mais c'est surtout invraisemblable. Mais les théories du complot ne sont plus dans l'ordre du vraisemblable, car les sociétés fonctionnaient dans des ordres très bizarres de ce qui était vraisemblable. Et j'ai essayé de travailler aussi ces temps-ci sur la manière dont le 19e siècle aboutit à l'invraisemblable, qui n'est évidemment plus le nôtre, que le genre homo sapiens, enfin, homo habilis, ait 3 millions d'années, ce que disent aujourd'hui Wikipédia et tout ça, c'est totalement impensable par les spécialistes au 19e siècle. Quand ils disent 100 000 ans, d'abord, ils indignent les catholiques qui pensent que l'homme a été créé au paradis terrestre il y a 4000 ans. Mais de toute façon, 100 000 ans, c'est à la limite du pensable. J'ai essayé de faire ce petit livre en espagnol sur les limites du pensable et du disciple, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en effet pensable dans une société. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement variable. Et donc, oui, je crois qu'en effet, avant de se demander... comment les gens discutent, il faudrait bien se dire qu'on est comme, ben, on a toujours cette image, on est des poissons dans un bocal, on ne voit pas le bocal, on se balade dans l'eau, on ne voit pas les limites du bocal, c'est-à-dire ce qui est au-delà de l'intelligible. Et en effet, le monde du 19e siècle, même pour les astronomes, etc., il aurait plus facile à concevoir, parce que c'est un mot religieux, que l'univers est infini, plutôt que de croire qu'il a 14 milliards d'années-lumière, etc. C'est-à-dire quelque chose qu'il est à la fois fini et en expansion. Bon, autrement dit, nous vivons dans un monde, il nous est pas possible d'imaginer que dans l'univers, il y a 100 trillions de galaxies, dont certaines comportent des centaines de milliards d'étoiles, etc. C'est au-delà du pensable. Quelque part, à la fin du 19e siècle, la science est devenue impensable.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, toutes les théories contemporaines, les théories des univers parallèles, les cordes, voilà. Et tout, oui, cordes. Ne sont pratiquement voilà. Même plus figurables. On dit
les cordes.
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant par rapport à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire qu'on voit aussi une crise de figurabilité des mythes contemporains, au fond. C'est pour ça qu'on revient beaucoup à des mythes préalables qui ont déjà été figurés par le passé, parce que finalement, il serait difficile de créer, nous, maintenant, des récits d'origine, etc. Et encore, il y a des choses comme le Big Bang, peut-être que le grand succès du terme lui-même, c'est que c'est cette idée de pratiquement onomatopée, presque sortie d'un comic book, Big Bang.
Oui, Big Bang, on est par la science dans un monde inintelligible, il est inintelligible au bon sens, et on peut suivre à travers le 19e siècle les chocs de l'intelligible. Par exemple, je vais vous donner un exemple typique de l'émergence naïve du racisme. La physiognomonie était une idée très simple, qui est que la gueule des gens reflète leur âme et leur passion cachée, leur teint montre qu'il y a des sanguins, des bilieux, des phlegmatiques, etc. Ça allait bien. Bon, très bien. Mais évidemment, c'était pour ces pays de race blanche. Si je prends la photo d'une indigène de Tasmanie, avec un énorme nez, des yeux globuleux, etc., elle, d'un point de vue physiognomonique, elle me signale, dans cette interprétation naïve du monde, que c'est un être tout à fait sauvage et inférieur. Autrement dit, l'antiracisme a eu beaucoup de peine à remonter une intuition fondamentale. toutes les idées modernes de l'astronomie, de la physiologie, etc., l'ADN, enfin tous ces machins, tout ce qu'on nous apprend de nos jours, qu'on a 4% de sang de Néandertal, sauf les Noirs africains qui, eux, n'ont pas, se sont pas mélangés avec des Néandertaliens. Enfin, tous ces trucs qui s'étendent sur 1 million d'années dépassent totalement l'imaginable. Les romans des Caveman Stories, les romans préhistoriques sur lesquels j'ai travaillé, étaient faisables parce que même la science de l'anthropologie humaine était encore relativement intelligible. Donc, Rosny pouvait faire des romans avec
avec d'ailleurs la fascination pour quelque chose qui n'est pas du tout scientifique, qui est la cohabitation des humains et des dinosaures, qui est peut-être ce qui a été le plus fantasmatique.
Ça marchait très bien. C'était ce que ma fille demandait à sa grand-mère quand elle était petite, comment tu faisais du temps des dinosaures. J'ai convaincu que la grand-mère appartenait à cette lointaine époque, mais c'est vrai, il y a eu cette... il y a eu même des romans préhistoriques où les héros sont des dinosaures, il n'y a pas d'humains. Enfin bon, le roman n'a pu exister que dans la mesure où le monde extérieur au roman était romanesque. C'est une idée bête comme chou. Ce monde était romanesque, c'est parce que je rencontre dans le 19e siècle Jean Valjean et Fantine et Madame Bovary et Manette Salomon. Je les rencontre dans l'expérience de la vie d'un bourgeois cultivé et lettré. Je les vois, alors je peux faire un roman avec. Mais qu'est-ce que je peux raconter aujourd'hui qui ferait un roman vraisemblable? Je vais essayer d'inventer un roman. Un agent du Shin Bet attrape le sida dans un sauna gay avec un membre d'Al-Qaïda. Ce serait une histoire tout à fait typique de 2017 parce qu'elle est totalement déjantée, comme on dit. Elle est entièrement en dehors du vraisemblable. Et constamment, nous vivons dans un monde qui donne l'impression que le vraisemblable peut être vrai. Vous avez lu dans les journaux cette sombre histoire, qui est vraie, hein, vraie, d'un mec qui a été libéré par Al-Qaïda en Afghanistan. Il le tenait depuis 4 ans. Et il lui avait dit que Trump avait été élu et il croyait que c'était une forme de supplice psychologique qu'on lui imposait pour lui faire craquer le moral.
C'est excellent. Mais d'ailleurs, ça me rappelle, finalement, ce qui est fou, c'est qu'il y a le retour de l'angoisse nucléaire, sauf c'est un retour pratiquement grotesque parce qu'il n'est pas sous la forme quasi-apocalyptique qu'on imaginait, etc. Il est sous la forme que finalement la Corée du Nord s'est mise à parler et Trump se sont comme remis dans une sorte de variation déjà caricaturale sur Doctor Strangelove.
C'est-à-dire que oui, c'est Doctor Strangelove parce que Kim Jong-un a vraiment la tête de l'emploi. Il a l'air d'un psychopathe. Staline pouvait faire peur, mais Kim Jong-un fait rigoler. Donc, mais on peut très bien recevoir une bombe thermonucléaire.
Sur la gueule, tout à fait. Je pense qu'on est un peu là, du coup, pressé par le temps pour conclure. Signaler, comme on avait dit, qu'il y a la boucle qui est en quelque part bouclée par rapport aux études initiales sur la paralittérature, puisque vous avez publié Les Dehors de la littérature, qui sont donc une réflexion avec une introduction elle-même, qui est une grande panoramique de la question du populaire, de la question de la légitimation du populaire, en faisant retour sur l'école de Francfort, sur les cultural studies, puis les... donc ça fait un, quelque part, c'est une sorte de testament, de legs par rapport à cet aspect-là de la question.
À ce domaine, j'ai essayé de reprendre et de synthétiser comme... J'ai continué tout doucement à travailler sur le fascisme, le totalitarisme, les religions séculières, etc. Et ma foi, on laissera travailler d'autres horribles travailleurs, comme dit Rimbaud.
Voilà. Mais du coup, c'est passionnant de voir que pratiquement sur l'échelle d'un demi-siècle, il y a tous ces... Comment ça a été une vision très changeante, parce que c'est peut-être ça qui est très intéressant comparé à des parcours qui sont parfois intéressants, mais qui sont un peu soit monomaniaques ou soit qui sont sur des sillons tracés d'avance. Là, ce qui est fascinant, c'est à quel point il y a un peu comme une sorte de boîte à surprise qui a constamment créé des nouvelles matrices de l'œuvre qui est partie, donc qui emmène à des, comme quelque part le paralittéraire emmène au discours social, qui emmène à la question de la rhétorique et du dialogue de sourds, qui emmène à toute une mise en question de la façon dont on a envisagé l'histoire, non seulement de l'argumentation, mais aussi l'histoire des grands systèmes politiques, etc. Donc il y a quelque chose d'extrêmement vivant dans cette approche, et on est très content d'avoir pu avoir faire le tour de ces panoramas.
Merci Antonio, et bien sûr on continue à bavarder. Merci à tous, et voilà, blogs.
'Pour les gens qui seraient intéressés et curieux à offrir votre support à Pop en Stock Radio, vous pouvez toujours aller visiter notre site web sur popenstock.ca ou aller nous coter sur iTunes, soit avec des étoiles, mais puisque nous sommes des intellectuels, nous aimons lire des paroles dans la mesure du possible. Vous pouvez inscrire un commentaire avec votre appréciation ou dépréciation, c'est comme vous voulez. On va l'accepter d'une manière ou d'une autre sur les plateformes de diffusion de balado. Ça permet aux gens qui magasinent des podcasts de voir un peu la vocation et le ton et la tenue de notre travail. Donc, on vous encourage, si vous voulez nous encourager, à aller encourager ces tierces plateformes qui rendent possible la diffusion de nos balados. Passez une excellente semaine. On vous aime fort.